La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Il s'agit donc du quatrième élément le plus abondant dans l'univers, et même s'il fait régulièrement la une des journaux entraînant derrière lui une épouvantable réputation en raison de son impact sur le changement du climat, et bien le carbone, puisque c'est lui dont il est question, affiche, comme on va le voir, un curriculum vitae tout à fait prestigieux. C'est par exemple grâce à lui que le soleil brille. Mes invités consacrent au carbone un ouvrage passionnant pour montrer les nombreuses facettes de cet élément indispensable. C'est donc le dossier de la tête au carré dans un instant, et j'attends dès maintenant vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, un cratère de météorite géant découvert au Groenland.
Ou alors une simple dépression géologique bien ronde. La découverte d'un nouveau cratère annoncé hier fait beaucoup de bruit, mais vous allez le voir, elle est aussi très critiquée.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5 avec un documentaire consacré ce soir au site de Karnak en Égypte. Fanny Boyon réalise cette émission préparée aujourd'hui par Irène Menahem.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le carbone, ce sera donc dans un instant le dossier de la tête au carré, avec mes invités que je salue. Avec moi en studio, la philosophe Bernadette Bensaud-Vincent.
Bonjour.
Bonjour à vous. Et en duplex des bureaux de Radio France à Lyon, Sacha Loève, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence. Bernadette Bensaud-Vincent, c'est un vrai pari que de consacrer un ouvrage à l'ennemi public numéro un en ce moment, le carbone, qui n'est vraiment pas à la fête, en particulier avec le climat, alors que vous montrez en réalité qu'il est un héros de notre culture. Et c'est vrai qu'à la lecture de cet ouvrage, on en est absolument convaincu. Vous avez entrepris une réhabilitation finalement du carbone?
Bien sûr, oui. Un parti pris de défense syndicale du carbone contre tous les projets de décarbonation, de zéro carbone. Imaginez un monde sans carbone.
Oui.
Qu'est-ce que ça serait? Il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait même pas de roches. Donc, bien sûr, c'est un abus de langage de dire zéro carbone. Mais cet abus de langage trahit un certain mépris pour toutes nos alliances avec la matière en général, et le carbone en particulier.
Bon, en tout cas, on verra qu'il faudra évidemment bien préciser les choses, hein, pour comprendre de quoi on parle, parce que le carbone peut être aussi néfaste, et on le sait, dans certaines conditions. Sacha Loève, on va voir avec vous justement à quel point ce carbone est polymorphe, avec des modes d'existence, mais qui sont ultra étendus, on tape dans toutes les disciplines pratiquement de la science avec lui, hein.
Oui, tout à fait. Le carbone est omniprésent, il sous-tend toute la chimie, il sous-tend le vivant, la technologie bien sûr, et l'énergie, mais à chaque fois, et également l'économie, l'écologie. Mais à chaque fois, quand on parle du carbone, et c'est peut-être la thèse principale de cet ouvrage, on ne parle pas du carbone dans le même sens, selon le même mode. Le carbone peut jouer plusieurs partitions, et souvent dans les discours où le carbone est pointé comme l'ennemi public numéro un, en fait, on prend un mode d'existence du carbone et on réduit tous les autres à ce seul et unique mode, alors que le carbone, il est profondément multiplicité.
Oui, on distinguera évidemment par exemple le dioxyde de carbone, du carbone en général, et on parlera culture et géopolitique également avec vous. Voilà, le menu donc est offert, et on peut attendre bien sûr dès maintenant les messages des auditeurs qui nous rejoignent avec toutes les questions sur le site de la Tête au Carré. Axel Villard, à la une de la science aujourd'hui, le grand cratère de météorite qui n'en est peut-être pas un.
Et oui, Mathieu, on pourrait résumer l'histoire comme ça. Un groupe de chercheurs danois a publié hier dans la revue Science Advances la découverte d'un très grand cratère de météorite au Groenland, large de 31 km et enfoui sous les glaces. Il serait aussi très jeune, voire contemporain à la présence des hommes sur la Terre. Notre invité aujourd'hui n'est pas du tout convaincu par cette découverte, qui fait pourtant beaucoup de bruit depuis hier. Bonjour Ludovic Ferrière.
Bonjour.
Vous êtes géologue, conservatoire en chef de la prestigieuse collection de météorites du Muséum naturel de Vienne, et vous êtes vous-même chasseur de météorites et de cratères. Alors, on l'a dit, vous êtes pas très d'accord avec ce travail de vos collègues danois, mais avant de nous dire pourquoi, dites-nous quand même ce qu'ils pensent avoir découvert exactement sous les glaces du Groenland.
Donc en fait, ils pensent avoir découvert un cratère, comme vous l'avez dit, de 31 km de diamètre, qui serait donc lié à la chute d'un astéroïde, d'une grosse météorite, si vous voulez, d'à peu près 1,5 km de diamètre. Et leur conclusion est basée sur des éléments discutables.
Alors, il est visible ce cratère ou il est sous la glace, puisqu'on parle du Groenland ?
Donc, en fait, il a été découvert en utilisant différentes techniques qui permettent de passer à travers la glace. Et donc, on voit sur les différentes imageries qui présentent dans ce papier une dépression visible, qui est très visible, qui fait 31 km de diamètre, assez profonde. Le problème étant que dans le cadre d'un cratère d'impact de cette taille, on s'attend à avoir dans la partie centrale une montagne qui peut faire plusieurs centaines de mètres de hauteur, et ce n'est pas le cas.
Alors, est-ce que le fait que le cratère soit sous la glace n'ait pas pu faire disparaître cette montagne par érosion, par exemple ?
Donc l'érosion, bien sûr, toute chose sur Terre est soumise à l'érosion, ce qui sous-entendrait donc que ce cratère est très ancien, puisque pour éroder une telle quantité de roches, il faudrait des millions d'années. Une de leurs théories est que ce cratère est très jeune, donc il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire.
Mais quand on dit très jeune, c'est quoi alors, précisément ?
Donc pour les chercheurs dans cette étude, ils disent quelques dizaines de milliers d'années, maximum 3 millions d'années, mais c'est sur des bases très discutables. L'idée étant, je pense, derrière d'associer ce cratère, qui n'est pas prouvé comme un cratère d'impact météoritique, avec cette extinction qui a eu lieu il y a à peu près 13 000 ans, qu'on appelle l'hypothèse de la comète de Clovis.
Alors, si on repart un peu du début, quand on cherche des cratères de météorites, qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qu'on cherche sur place pour les confirmer ? Parce que j'ai l'impression que vous dites, bon, on a quelque chose, mais on est loin de l'avoir confirmé.
Donc pour chercher ou pour trouver un cratère d'impact météoritique, la première chose, c'est de regarder des images satellites et d'essayer de trouver des structures circulaires, sachant que si vous commencez à faire ça sur Google Earth, par exemple, vous allez trouver plein de choses circulaires, mais il y a des volcans, il y a tout un tas de phénomènes géologiques qui permettent de former des structures circulaires. Donc le seul moyen pour confirmer votre découverte possible, c'est d'aller sur le terrain et d'aller ramasser des roches, puisqu'il y a des roches uniques du fait des pressions considérables qui sont en jeu lors de ces impacts, et ces roches caractéristiques vont vous permettre de prouver l'origine météoritique. En particulier, vous allez ramener ces roches au laboratoire et essayer de trouver à l'intérieur des minéraux qui ont souffert de ces pressions, notamment le quartz. Et donc, c'est un peu comme Indiana Jones au laboratoire qui va chercher des phénomènes de choc dans le quartz, donc ce qu'on appelle des quartz choqués. Et si vous trouvez ces quartz choqués dans cette roche, vous êtes sûr qu'il y a eu un impact de météorite.
Ça n'a pas été fait avec ce travail au Groenland ?
Donc dans le cadre de cette étude, ils ont ramassé trois échantillons qui les associent avec cette structure, sachant qu'ils ne les ont pas ramassés dans cette structure, ils les ont ramassés à côté, puisque la structure est recouverte par la glace. Sur ces trois échantillons de sédiments qu'ils ont ramassés, dans un échantillon seulement, ils ont rapporté dans cette étude 10 grains de quartz choqué. 10 grains, donc faut vous imaginer des grains qui sont plus petits que des grains de sable, donc moins de quelques millimètres, dans lesquels ils ont démontré qu'il y a eu des effets de choc. Donc c'est une première découverte qui est confirmée. Je suis expert sur ces déformations dans les quartz, donc je confirme qu'ils ont vraiment découvert des quartz choqués, mais l'association avec cette dépression circulaire est basée sur rien du tout, ou des observations qui sont pas concluantes. Ils ne peuvent pas prouver que ces quartz choqués ne viennent pas d'un autre impact qui s'est produit à un autre moment et qui ont éjecté ces grains de quartz là où ils les ont trouvés. Il faut savoir qu'il y a 66 millions d'années, les dinosaures ont été exterminés suite à l'impact dans le Yucatan au Mexique d'un astéroïde de 10 km de diamètre qui a fait un cratère de 200 km. Et on trouve des grains de quartz choqués liés à cet impact partout sur Terre, même en France, à Bidart, dans le sud-ouest de la France.
Alors pour terminer, Ludovic Ferrière, est-ce que vous voulez dire que les chercheurs sont allés trop vite ou trop loin ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, avec les mêmes données entre les mains à propos de cet impact ou en tout cas de cette forme circulaire ?
Oui, ils sont allés trop loin, je pense, dans leur interprétation. Donc, ils auraient pu rapporter dans une publication moindre qu'ils ont découvert des quartz choqués et mettre beaucoup plus de points d'interrogation à leurs observations. Là, ils essayent, je pense, de faire mousser leur découverte sur des bases qui sont scientifiquement pas solides. Donc, il y a beaucoup d'études à faire. La première serait de dater ce cratère qui, si c'est un cratère d'impact météoritique, est forcément très ancien du fait de la structure où on manque cette partie centrale.
Merci beaucoup Ludovic Ferrière pour ces précisions. Vous êtes géologue et donc conservateur en chef de la collection de météorites du Muséum naturel de Vienne en Autriche. Axel, merci et à demain.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Néandertal ne cassait pas plus de crâne que Sapiens. Les paléontologues ont longtemps dépeint Néandertal comme un individu rustre et bagarreur et Sapiens comme un sage plus doux, sophistiqué et inventif. Mais lorsque l'on compare le nombre de crânes brisés à coups de masse ou de gourdins découverts fossilisés, les choses semblent le mieux s'équilibrer. Une étude menée sur 541 crânes démontre que les deux espèces avaient l'une et l'autre la même tendance à fendre la tête de leurs adversaires. Les crânes étudiés montrent aussi que les crânes des mâles sont largement plus marqués que ceux des femelles. Notre nez a une arme secrète contre les infections. En plus de libérer du mucus pour piéger les agents pathogènes à l'extérieur du corps, les cellules de nos narines sont aussi capables de les détruire directement. Une équipe du Massachusetts vient de découvrir que des millions de petits sacs remplis de molécules tueuses de bactéries sont également relâchés avec le mucus. C'est la première fois que l'on démontre une action du système immunitaire qui se déroule à l'extérieur du corps. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle pour les ours polaires de l'ouest de l'Alaska. Une étude démontre que depuis 2008, les sous-populations qui vivent entre le continent américain et la Russie se portent bien malgré les pertes de glace régulières que subissent leur habitat. Ils sont environ 3000 individus à vivre dans cette zone et selon les chercheurs, leur taux de reproduction est stable depuis 10 ans. La biographie du carbone, c'est le dossier de l'émission dans un instant.
Bonjour, c'est Vanessa Paradis. Aujourd'hui sur France Inter, je vous fais découvrir en exclusivité et en avant-première, les titres de mon nouvel album, Les Sources. Kiev, c'est une chanson de Samuel Benchetrit, paroles et musique. Elle raconte le manque qu'un couple peut ressentir quand ils sont séparés géographiquement. Et l'histoire se passe dans un pays en guerre. Je trouvais assez bouleversant, très très beau, de faire le parallèle entre une histoire d'amour qui souffre du manque et un pays qui souffre physiquement, moralement, quoi. Ce sont deux souffrances qui se retrouvent.
Des neiges de Kiev au ciel lavé, des baisers brûlés si loin. Ce goût de ce mois d'août est si loin. On va garder.
Voilà la voix de cette jeune fille qui s'appelle Vanessa Paradis avec un nouvel album qui va sortir demain avec France Inter. L'album s'appelle Les Sources et en extrait tout au long de la journée et à l'instant c'était Kiev.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Le carbone, ses vies, ses œuvres, c'est donc un livre qui paraît aux éditions du Seuil, qui est signé par mes invités Bernadette Bensaud-Vincent. D'ailleurs, le titre, c'est Carbone, hein, c'est même pas le carbone, c'est bien plus percutant. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes membre de l'Académie des technologies. Et puis avec nous, en duplex de Lyon, Sacha Loew. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université Lyon 3 Jean Moulin. Et les auditeurs nous rejoignent déjà nombreux avec des questions sur le carbone, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Pourquoi justement, Bernadette Bensaud-Vincent, un ouvrage consacré au carbone, une sorte de biographie, donc avec tout ce que le carbone a fait dans sa vie, et ses œuvres effectivement sont très nombreuses. Pourquoi vous avez eu cette idée ?
Une biographie parce que c'est un acteur essentiel de notre histoire. Et exactement au même titre que les grands hommes qui ont fait l'histoire, et les grandes femmes d'ailleurs aussi. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à le personnaliser, sans pour autant faire comme beaucoup de vulgarisateurs ont fait, qui racontent les périples et les tribulations d'un atome de carbone à travers les âges et à travers les siècles.
C'est intéressant quand même de l'envisager comme ça aussi.
C'est très intéressant, mais ça suppose toujours qu'il y a une identité du carbone, qui est celle de l'atome de carbone fixe. Or, l'identité chimique du carbone n'est que l'une de ces identités.
Bon, alors écoutez, on avait prévu un extrait justement qui concerne l'atome de carbone, donc je vous propose de l'écouter tout de suite, comme ça ce sera fait, et ça nous permettra d'aller justement après sur le terrain extrêmement vaste du carbone. C'est un petit film très intéressant qui a été fait pour Universcience et le CNRS, et qui présente justement en moins d'une minute tout le parcours d'un atome de carbone, et c'est vraiment passionnant.
Il était une fois un atome de carbone, celui-là, là, qui est dans l'un des poils de ton bras. Avant d'être dans ton poil, il était déjà dans ton corps à ta naissance ailleurs. Mais mieux, il était présent dans l'ovule de ta mère quand il a été fécondé. Ta mère avait capté cet atome en absorbant une molécule de dioxyde de carbone qui volait dans l'air lors d'une promenade à la montagne. Cette molécule était dans l'atmosphère terrestre depuis près de 2000 ans. Depuis que le Vésuve l'avait recraché lors de la terrible éruption du 24 août de l'an 79. Avant ça, ce carbone avait macéré pendant des centaines de milliers d'années dans le magma souterrain. Il était arrivé dans ce magma après un voyage de plusieurs millions d'années depuis la surface de la Terre. Il venait de la décomposition d'un diplodocus. Bon, ce diplodocus avait avalé ce carbone présent dans une algue, algue qu'il avait trouvée dans une eau boueuse.
Arrête ! Je veux pas être un reste de diplodocus en décomposition.
Depuis tout ce temps-là, l'atome de carbone, c'est toujours le même. Il n'a pas bougé d'un poil.
Et ça, c'est tout à fait vertigineux, l'atome et son histoire, Bernadette Bensaud-Vincent. Voilà, c'est amusant aussi de le concevoir comme ça. Hein.
Absolument. Et cet atome a une vie très, très longue et mouvementée parce qu'il a une capacité de liaison tout à fait extraordinaire. Et c'est cette espèce de capacité à se lier avec tous les autres éléments du tableau périodique pratiquement, et avec lui-même surtout, qui fait qu'il est un grand héros, parce que le grand héros qui a pu créer des liaisons avec lui-même, puis après a fait des branchements avec d'autres, ce qui lui a permis d'envahir l'univers.
Oui, alors nous sommes justement les porteurs de ce héros, Sacha Loew, hein, puisque évidemment, toute cette histoire elle est très intéressante, puisqu'en nous, nous avons les traces précisément de cette mémoire incroyable.
Fait le carbone, donc à travers le petit extrait que vous nous avez donné le plaisir d'entendre, on voit que le carbone permet de raconter des histoires. Il suscite des récits. Avec lui, les physiciens, les géologues, les chimistes se laissent aller au récit, plus ou moins narratif, plus ou moins épique, plus ou moins drôle, enfantin. Et le carbone a quelque chose de singulier qui le relie à l'écriture, même d'un point de vue du point de vue de son mode d'existence géologique, géophysique, ce qu'on appelle le carbone fossile, les énergies fossiles, c'est en quelque sorte la trace de la vie passée sur Terre qui s'est sédimentée avec le travail des sols, le travail des roches, etc. Et donc le carbone, pas à travers le carbone, la Terre écrit sa propre histoire, elle se constitue une mémoire, et en déchiffrant les traces du carbone, eh bien nous racontons nos histoires humaines, mais en les branchant sur des histoires de bien plus longue durée, des histoires naturelles, des histoires cosmiques. Et donc le carbone a effectivement quelque chose à voir avec la mémoire, avec l'écriture, mais dans son aspect aussi matériel, dans son aspect de trace.
Et on verra tout à l'heure également comment un écrivain peut s'emparer du carbone pour se confondre quasiment avec lui, avec un exemple autour de Primo Levi. Bernadette Benso de Vincent, justement, on voit à quel point c'est vertigineux de s'attaquer à un tel élément comme le carbone, parce que c'est extrêmement protéiforme. Comment vous avez procédé justement pour essayer de raconter la vie, puisque vous l'incarnez, hein, c'est vraiment une biographie que vous proposez de cet élément.
C'est une biographie, mais c'est pas une biographie chronologique, puisqu'on a commencé par s'intéresser à comment le carbone est né au sens... né en tant qu'élément chimique. Et on s'est cassé la tête parce qu'on s'est rendu compte que s'il fallait identifier qui est l'inventeur du carbone, eh ben c'est difficile.
Ou le découvreur, en tout cas.
Le découvreur, ouais. Oui. C'est difficile puisque, bien sûr, qu'on connaissait le graphite, on connaissait le diamant, et autant de formes de carbone. Et le charbon, qui est 99% suivant la teneur du charbon. Et donc, c'était très familier, tout le monde le connaissait. Et quand Lavoisier et ses collaborateurs ont fait brûler du diamant dans les années 1770, ils n'étaient pas loin d'identifier que c'était du carbone. Et ils ont créé le mot « carbone ». Qui est dans la nomenclature chimique. Oui. Mais en même temps...
Ça veut dire charbon d'ailleurs, tout simplement.
Oui, mais en même temps, ils le décrivent comme du charbon.
Oui, c'est ça.
Ils s'interrogent même quelle est la couleur du carbone. Oui. C'est et noir, évidemment, parce qu'ils le confondent un peu avec l'une de ces manifestations. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que c'est vraiment dans le tableau périodique que Mendeleïev a bien distingué le carbone de ces allotropes, puisque c'est le mot...
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça veut dire d'autres formes. Et qui se présente sous plusieurs formes à l'état élémentaire. Il se présente sous forme de divers corps simples, soit le diamant, soit le graphite. Aujourd'hui, je dirais le graphène, qui est encore un autre héros, soit le charbon et d'autres, la lance d'aléite aussi qu'on a découverte, tout à fait inconnue.
Et ça, c'est vraiment le départ du tableau périodique aussi, de la part de Mendeleïev, grâce au carbone.
C'est en tout cas ce qui a permis à Mendeleïev de diffuser sa distinction fondamentale entre un corps simple et un élément.
Sacha Loew, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que cette histoire du carbone permet aussi de relier bien l'histoire naturelle, évidemment, et puis l'histoire culturelle, c'est-à-dire que la chimie jusqu'à l'histoire des hommes aussi, il y a un lien très fort entre les deux.
Oui, tout à fait. Oui, le carbone est un convertisseur entre l'histoire naturelle et l'histoire culturelle. Ainsi, il résonne avec les mythes de naissance de la culture, de l'émergence d'une humanité qui se définit aussi comme une existence historique qui se raconte des récits qui se projettent dans un univers de symboles puisque le carbone, de par son étymologie carbo le brûler, est lié au feu. Donc si on fait cette histoire un peu mythique, hein, un peu de l'humanité qui commence avec la maîtrise du feu, le carbone est là depuis le début. Et lui permet d'inscrire ses symboles par exemple sur les parois des cavernes.
Absolument, on s'en est servi pour les premiers dessins en tous les cas. Bernadette Benso de Vincent, il y a Jean qui nous écrit sur franceinter.fr, il nous dit « Moi je trouve que le carbone est un élément formidable, les plantes savent à merveille le stocker, aussi bien en elles que dans le sol, mais je suis très écolo et je sais que le problème ne vient pas de la quantité de carbone sur Terre, mais de la quantité de carbone que nous avons extrait du sol pour le balancer sous forme gazeuse dans l'atmosphère. C'est peut-être le moment de faire la distinction justement avec le dioxyde de carbone, parce que si la mauvaise presse, justement le carbone, c'est bien à cause de cela, non ?
Eh oui, et il a tout à fait raison. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène en échange dans l'atmosphère. Mais le problème, c'est que tout ce carbone qui était stocké sous terre, qui sont des débris de végétaux ou de plantains, sous forme d'hydrocarbures, eh bien, c'est un peu du soleil concentré dans la terre, et que en quelques années, on a libéré dans l'atmosphère. C'est un peu comme le diable qu'on a sorti de sa boîte et qui empoisonne l'atmosphère aujourd'hui.
Et d'ailleurs, on veut le remettre dans sa boîte.
C'est le gaz à effet de serre.
Quand on veut zéro carbone, justement, et qu'on veut décarboner.
C'est celui qu'on désigne comme le mauvais gaz à effet de serre. En tout cas, c'est le prototype de tous les gaz à effet de serre, puisqu'il permet de commensurer les autres. Mais cette idée d'un diable qu'on a sorti de la boîte et qu'on voudrait re-rentrer, alors on essaye de l'enfouir sous terre ou sous l'eau aussi, parce que l'océan aussi stocke du carbone. Mais c'est un petit peu comme on essaye de cacher les méfaits qu'on a faits. Et donc ça, c'est une histoire finalement, c'est notre histoire, c'est celle de l'Anthropocène. Et le carbone, c'est vraiment ce qui est l'acteur numéro un de l'Anthropocène.
Alors justement, l'Anthropocène, c'est l'impact des hommes
sur l'histoire de la Terre.
Absolument. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté aussi dans nos civilisations, puisque bon, ça dépend jusqu'où on remonte. Mais en tout cas, depuis l'ère industrielle, il est clairement signifié que l'homme a un impact très clair justement sur
Mais du coup, le récit de l'Anthropocène est un récit qui nous culpabilise un petit peu. Vous avez sorti, alors que la Terre soigneusement le gardait sous terre, toute cette énergie-là, vous l'avez libérée pour votre plaisir. Tout ça pour rouler en voiture, je ne fais pas d'allusion aux gilets jaunes, mais vous voulez vous en servir, mais regardez la conséquence, et maintenant il faut le réenfouir.
On parlera du pétrole et du plastique également, puisque ça fait partie des grands moments de la saga Carbone que vous évoquez dans cet ouvrage. Carbone, ses vies et ses œuvres, c'est au seuil, et c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré.
Carry my way. Carry. Carry my way. Carry. 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 Divine intervention. Jehovah walked on water. Grandma raised us up a pension. Mama working extra. Papa, he no even make the effort. Except for when he walked away and left us. Now I'm taller with my head up. I can stand on my own too now. Grudges that I carry make my leg hurt. I hope my dragon ain't too loud. My face will tell you that I'm fed up. Try to move, but I cannot. Rock throws, sashy knees and elbows. Had granny feet blistered from walking these hell roads. Just so you know, just so you know. His wings are growing for me, Lord. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh. Carry my way. Carry my way. In a witch slip, I'm a man now, innit? Same shit, just a dead shit. I'm a man now, innit? Listen, at least I kept my mind on my vision. But now, I see me how they did it. Either use the downs as my pivot or drown with it. And so I turned all my demons to a sound. Spitting image of my doubt, spitting image of my fear. Only through the prayer, it's so quiet when I hear. I tell you when you're down, man, don't nobody care. Watch him jump ship when you're finally up in the anchor. His wings are growing for me alone. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh. Carry my way. Carry my way.
Carry my way, carry me, like my mind, yeah. Carry,
Carry Me, c'était Everything is Recorded.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà mes invités Bernadette Bensaud-Vincent et Sacha Loew pour ce livre Carbone, ses vies, ses œuvres. C'est aux éditions du Seuil avec vos messages et vos questions auxquelles nous répondons sur franceinter.fr. Sacha Loew, justement, la méconnaissance de cette diversité du carbone, c'était au cœur aussi de votre travail qui vous a demandé il y a plusieurs années, parce qu'effectivement on évoquait l'aspect protéiforme du carbone tout à l'heure. Ça veut dire qu'il vous a fallu vous familiariser avec toutes ces disciplines dont on a parlé là tout à l'heure?
Certaines, oui. C'est-à-dire que, en fait, le carbone, je crois que Bernadette et moi, nous n'avons cessé de le rencontrer, de le croiser un petit peu dans des détours imprévus dans nos travaux. Hein. Bernadette Bensaud-Vincent en histoire de la chimie, dont elle est spécialiste, hein, en sciences des matériaux. Moi, j'ai travaillé sur les nanotechnologies. Mmh. Donc, effectivement, je croisais sans cesse le carbone. Et le carbone, donc, on le rencontre partout. Dans énormément de champs scientifiques, sciences de la vie, de la terre, de la matière. Mais il a ceci de particulier qu'il est assez discret. Il n'attire pas forcément l'attention sur lui.
Ah, il fait même plutôt l'objet de rejet, on le disait tout à l'heure. Hein.
Oui, bah alors c'est-à-dire que soit il n'attire pas l'attention sur lui, soit il attire trop, soit quand il le fait, il attire trop l'attention sur lui pour des raisons pas forcément pour des raisons compréhensibles, mais pas forcément d'une manière qui serait souhaitable pour déployer toute la diversité en laquelle toute la multiplicité en laquelle il consiste. Et donc il a fallu donc suivre le fil du carbone ou suivre des savants qui ont eux-mêmes suivi la piste du carbone et effectivement nous familiariser avec certains champs scientifiques. Moi, je n'étais pas du tout spécialiste, par exemple, de la physique des particules, mais donc quand nous sommes intéressés à la naissance du carbone, non pas en tant qu'objet étudié par des scientifiques humains, mais en tant qu'élément apparaissant à un certain moment, à un certain stade de l'histoire de l'univers, au cours de la nucléosynthèse, j'ai dû effectivement apprendre un petit peu, me familiariser, discuter avec des scientifiques, lire. Des domaines de la littérature scientifique que je ne connaissais pas forcément, et ça c'est une approche que l'on défend, c'est-à-dire que le carbone nous pousse à cultiver une culture scientifique, une culture technique qui n'est pas une culture d'experts, mais qui est une culture d'amateurs éclectiques. On le suit un petit peu à la trace et au gré des contrées où il nous mène. Eh bien, on se familiarise avec tous ces univers qui sont à travers lesquels le carbone se trouve, à travers lesquels il migre, etc.
Bernadette Bensaud-Vincent, justement, est-ce qu'on peut dire que le carbone est à l'origine du vivant et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe finalement avec ces briques aussi qui constituent le vivant? Parce que le carbone en lui-même n'est pas vivant et pourtant il contribue largement à l'apparition de la vie sur Terre.
Oui, il est une des conditions de l'apparition de la vie sur Terre, c'est certain. Il était effectivement bloqué sous forme de carbonate, CO3- dans les roches. Mmh. Et il a pu être utilisé par des bactéries qui ont transformé et qui ont pu donc il a contribué en tout cas aux premières acides nucléiques. On ne sait pas encore comment, hein, mais il fait partie du squelette de tout vivant.
Jean-Paul demande justement sur franceinter.fr si le carbone sert pour la datation d'éléments et justement dans le domaine du vivant, on l'utilise précisément pour cela.
On l'utilise beaucoup en archéologie et en paléontologie pour toutes les fouilles qui permettent d'étudier et de dater des ossements qui restent ou même des objets qui, d'après le taux d'isotopes radioactifs C14.
Oui.
Et donc ça a été une technique absolument fondamentale pour la paléontologie et même pour la géologie, parce que pour dater les fossiles, parce que ça permet d'avoir une datation cette fois absolue, alors que jusqu'ici on datait toujours relativement aux couches et aux fossiles qu'on avait. Et là on a un outil de précision qui permet de dater même, de dire bon, ben si on dit ça, alors l'origine de l'univers c'est tant d'années avant.
Sacha Loeb, justement, quand on regarde les textes anciens, on fait référence d'ailleurs au carbone sans forcément le savoir, évidemment, aux différentes époques, mais l'ère méphitique, par exemple, en est l'illustration ?
Oui, tout à fait. Donc, on trouve dans des textes de Virgile, par exemple, dans l'Énéide, on trouve référence à cette déesque osque, donc en Italie centrale, avant l'installation des Romains, qui était une déesse ce qu'on appelle les mophètes, c'est-à-dire les sources bouillonnantes et fumantes qui sont liées aux anciennes activités volcaniques, aux activités d'ailleurs toujours présentes des volcans. Et donc, il ne s'agissait pas simplement, il ne s'agit pas d'identifier donc, ce qui était un génie des lieux, en fait, hein, c'est-à-dire une entité mythique qui habite certains lieux, hein, au dioxyde de carbone, puisqu'on sait qu'il y a d'autres gaz, il y a des gaz de soufre qui se dégagent de ces sources souterraines, mais simplement, on retrouve à travers ces évocations mythiques, on retrouve aussi quelque chose de notre carbone actuel. Donc, en fait, nous n'avons pas du tout fait une chronologie dans laquelle il y aurait un carbone archaïque, tout imprégné de mythologie, dont les scientifiques modernes se seraient débarrassés, puisque à travers même la science moderne et notre actuel CO2, on retrouve cette figure d'un carbone à la fois souterrain, aérien, à la fois menaçant et salvateur. On retrouve toutes ces connotations mythiques. Donc ces détours à travers d'autres modes d'existence du carbone que les modes purement scientifiques nous permettent d'avoir un retour sur ce qui, dans notre science la plus rigoureuse, la plus sérieuse, résonne avec tout un imaginaire culturel qui lui donne un sens pour notre histoire et pour quiconque.
Et donc là, en l'occurrence, les émanations nauséabondes avec l'air méphitique. Bernadette Bentoud-Vincent, justement, dans cet ouvrage, vous dites à quel point aussi il y a une bataille de mots pour les chimistes, en particulier au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, pour trouver le bon mot pour parler du carbone, ce qu'on évoquait le charbon tout à l'heure. On pourrait parler du diamant également. Donc ça a été vraiment une bataille pour savoir exactement de quoi on parlait.
Oui, il n'était pas du tout évident que le charbon et le diamant, c'était la même chose.
Ouais.
Et ce qu'on appelait on n'appelait pas le graphite à l'époque, on prenait pour du plomb. Mais donc on avait plusieurs variétés proches, avec des propriétés et des comportements totalement différents. Et donc quand on a réduit le diamant, finalement, en ce qu'on appelait l'air fixe à l'époque, ce qui est l'air méphitique ou notre CO2, eh bien, là, on s'est dit, ben mince, il y a quelque chose. Et c'est sans doute la même chose qui se présente sous plusieurs manières. Et ça a été très, très important parce que ça a permis de dégager un petit peu les substances chimiques du contexte dans lequel on les utilisait. Il fallait dégager les détacier par rapport à la pharmacie ou à l'agriculture ou pour lesquelles on les utilisait. Donc le carbone a vraiment aidé la chimie à se constituer comme science. C'est ça qui est important.
Allez, on se retrouve dans un instant, on poursuit notre discussion autour du carbone, juste après l'Hôtel d'amour d'Ariane Moffat sur France Inter.
tête au carré. Réduire massivement les émissions de dioxyde de carbone. Le CO2, ce redoutable gaz à effet de serre qui réchauffe la planète.
Il s'agit de donner un prix au CO2.
La fixation d'un prix du carbone. Taxer les émissions de CO2.
Taxe carbone.
Les émissions de dioxyde de carbone sont déjà aujourd'hui deux fois trop importantes.
Des chercheurs suédois ont listé les quatre mesures les plus efficaces pour réduire son bilan carbone.
7 milliards de tonnes de carbone émises chaque année par les activités humaines.
Comment atteindre une économie décarbonée?
L'objectif zéro carbone est-il possible?
Neutre en carbone.
Zéro carbone.
100% propre.
Voilà, ce petit medley concocté par Fanny Boyon pour montrer à quel point, justement, le carbone peut faire aussi la une de l'actualité. Souvent pointé du doigt, l'ennemi public numéro un, Bernadette Bensaud-Vincent et Sacha Loève avec nous donc pour en parler. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a tout le problème de nos activités dont on voudrait bien qu'elles soient neutres en carbone.
Et si on veut qu'elles soient neutres en carbone, c'est parce qu'elles sont très riches en carbone, pour la plupart. Et on peut dire que l'essentiel de notre économie et de notre technologie repose sur du carbone. Mais ça, c'est, on ne pourra pas faire autrement.
Ouais.
Il faut être clair. On ne peut pas, on pourra peut-être remplacer le carbone fossile par d'autres types de carbone. Mais on ne peut pas se passer du carbone pour fabriquer de la vie, ni pour fabriquer ni pour rouler, enfin je veux dire, ni pour l'énergie. On a besoin.
Sacha Loève, justement, sur l'empreinte carbone, sur sa trace sur l'environnement, on l'exprime en tonnes de CO2 émis. Comment ça se passe? Parce que c'est aussi une mesure et un outil de mesure, le carbone aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc, on l'exprime en tonnes de carbone équivalent. C'est-à-dire que non seulement nos activités productives, manufacturières, transport, etc., enfin, tout ce que nous faisons, non seulement ces activités sont riches au carbone, en carbone, mais le carbone n'est pas juste quelque chose que nous émettons, c'est quelque chose qui nous sert à mesurer, à convertir les unes dans les autres, des activités qui sont très différentes, qui sont très très hétérogènes. Donc, quand on parle du CO2 principal fauteur de troubles dans le climat, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, le méthane, CH4, fait 28 fois de réchauffement climatique de plus, enfin d'effet de serre de plus que le dioxyde de carbone. Simplement, ce potentiel de réchauffement climatique, par exemple du méthane, qui est émis par exemple dans le cadre des activités agricoles, il est mesuré en équivalent CO2. Donc le carbone aujourd'hui, c'est un nouvel équivalent général. C'est comme une monnaie.
C'est une devise.
C'est, comme, ouais, c'est une devise.
Devise voilà. Internationale.
Tout
c'est
à
ça,
fait. Ouais. Comme le dollar pour les monnaies. Donc c'est un standard. Et sans ce standard, on ne peut pas mesurer à très grande échelle, à une échelle globale, l'impact de nos activités sur la planète.
Avec les États, par exemple Sacha Loève, qui peuvent acquérir des crédits carbone pour financer des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, justement.
Tout à fait. Les États, ensuite, ces crédits sont alloués à des entreprises, et ces crédits sont échangés contre des droits à émettre des gaz à effet de serre sur des bourses. Donc, il y a aujourd'hui un marché carbone. Le carbone a aussi aujourd'hui un mode d'existence de marché.
Oui.
Et il a ce mode d'existence parce qu'il a comme capacité, disons, en chimie d'ailleurs, comme en économie, en écologie, de fournir un standard, de fournir une balance pour soupeser ce qui est échangé entre l'économie et l'écosystème, entre l'économie de la nature, comme on disait au XVIIIe siècle, et l'économie industrielle. Et ça, c'est ce que permet le carbone. Mmh. C'est une capacité qui est proprement extraordinaire. Et en même temps, les solutions que nous inventons aujourd'hui sont avant tout des solutions de marché qui font clairement question quant à leur efficacité, puisque en fait, comme nous laissons le prix de la tonne de carbone fluctuer au gré de l'offre et de la demande, les acteurs, disons, s'arrangent plus ou moins sur les marchés du carbone oui. pour faire descendre le prix de la tonne du carbone. Donc, pour l'instant, ces solutions de marché carbone sont assez peu efficientes.
Avec beaucoup d'inégalités territoriales également dans ce domaine. Bernadette Benso de Vincent,
donc gomme.
Absolument. Mmh. Piéger, stocker le carbone, décarboner, hein, voilà, ce sont des mots qu'on entend beaucoup. Il y a des solutions quand même aujourd'hui, évidemment. Ça fait partie aussi de la dynamique de la recherche pour tenter de capturer le carbone. Hein.
Oui, je pense qu'on essaye désespérément de refaire rentrer le diable dans sa boîte, si je peux dire, c'est-à-dire de stocker le carbone soit de manière dans le sol, soit, et dans le sol ça peut être par l'agriculture, hein, puisque l'agriculture, justement, si on réenrichit les sols, elle peut stocker beaucoup de carbone, et ou bien dans les océans. Mais c'est là qu'on affronte un terrible problème, c'est celui de la durée des cycles du carbone. Parce que le carbone, la quantité est toujours la même, quantitativement. Mmh. Mais le problème, c'est le temps qu'il faut au carbone pour circuler dans l'atmosphère, pour être capté par la forêt ou par les plantes, puis pour être déstocké par des êtres vivants comme nous après. Mais donc ça, c'est un cycle qui prend de l'ordre de 4-5 ans. Mais ce cycle interfère avec d'autres cycles beaucoup plus longs du carbone et qui sont un peu le thermostat de la planète. Et ces cycles thermostat de la planète sont en ce moment, extrêmement dérangé par tout le carbone qui est dans l'atmosphère.
On va terminer avec un écrivain, Primo Levi, qui justement a écrit Le système périodique et qui raconte justement l'histoire d'un atome de carbone qui se confond avec l'écrivain. Donc c'est une très belle histoire parce qu'il y a tout le graphène aussi qui est derrière.
C'est le dernier chapitre du très beau livre autobiographique de Primo Levi, qui est consacré au carbone, où effectivement il s'identifie un peu à cet élément en disant mais finalement le carbone s'écrit à travers moi. Mais il ne connaissait pas le graphène. Le graphène, c'est quand même quelque chose qui est apparu récemment et qui a fait l'objet d'un prix Nobel récemment.
C'est vrai, oui.
Et qu'est-ce que c'est que le graphène ? En fait, on le connaissait déjà sans le connaître. Comme la plupart des nanocarbones, on les avait rencontrés depuis longtemps, mais on ne savait pas les utiliser parce qu'on ne se rendait pas compte qu'ils avaient des propriétés spéciales qui pouvaient nous être utiles. Et donc, que ce soit les nanotubes qui existaient déjà dans les filaments qu'on manipulait déjà pour faire des lampes, par exemple, des filaments carbone, ou qu'on a rencontré en faisant des fibres de carbone pour les composites, pour renforcer le plastique et élargir encore le marché des plastiques et en rejeter toujours tout plus dans les océans aussi. Donc finalement, on avait déjà la connaissance du graphène qui est une couche monoatomique de graphite. Et à la limite, quand on prend des crayons de papier et qu'on passe un scotch dessus, eh bien il y aurait une trace dessus qui est du graphène. Or, le graphène est un élément absolument merveilleux puisqu'il allie plein de propriétés. À la fois de résistance, de conduction, de semi-conduction, non, justement pas de semi-conduction, c'est ça le problème, mais de conduction. Et il permet beaucoup de choses et on a beaucoup investi sur le graphène aujourd'hui.
Avec cette histoire donc d'atomes dans lequel se confond l'écrivain. Et on pourra entre autres lire cette aventure dans cet ouvrage qui s'appelle Carbone, mais également tout ce qui concerne le plastique et le pétrole. Ça aussi, c'est fascinant du point de vue des civilisations. Et vous signez donc ensemble cet ouvrage, Bernadette Bensaud-Vincent et Sacha Loew. Ce livre paraît aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi dans La Tête au Carré.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Avec David Amiel. Bonjour David.
Bonjour.
Karnak, joyau des pharaons, ce sera le film à voir ce soir. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur ce mythique temple égyptien ?
Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que pendant des siècles, le siège du pouvoir politique et religieux en Égypte était dans le nord, près des grandes pyramides de Gizeh, donc à côté du Caire. Mais à partir de l'an 2000, à peu près avant notre ère, en fait le temple de Karnak, qui est situé dans la ville de Thèbes aujourd'hui, gagne en importance pour devenir le centre, le cœur du pouvoir égyptien. Donc c'était un immense complexe à la gloire du roi des dieux, Amon-Ré.
Alors c'est un lieu, on va le voir, qui attire énormément d'égyptologues. Qu'est-ce qu'ils souhaitent d'ailleurs y découvrir, a priori ?
Alors oui, aujourd'hui il y a beaucoup de scientifiques, dont d'ailleurs énormément de Français, qui y travaillent, sur la restauration du site, comme sur la compréhension vraiment de la vie de l'époque. Donc décrypter les hiéroglyphes, par exemple, qui est une tâche pas du tout aisée, mais qui va nous donner un éclairage vraiment précieux sur la vie quotidienne ou sur les rites de l'époque. Et on va également tenter, par exemple, de comprendre donc, comment les architectes ont érigé, sans avoir de grue, cet immense complexe, et notamment comment ils ont dressé ces monuments fascinants, les obélisques.
Et bien justement, extrait du film autour de cet aspect-là.
À son apogée, Karnak possédait 13 obélisques. 6 d'entre eux se trouvaient au centre du complexe. Le plus grand culminait à 36 mètres de haut. Et tous étaient faits du plus dur des granites pour éviter qu'ils ne se brisent. Leur pointe était couverte d'or, pour refléter le soleil. Elle reliait le ciel et la terre à travers le dieu solaire, Ré. Les Égyptiens ont érigé ces monolithes sans engin de levage. Comment ont-ils procédé ?
Alors justement, David, est-ce qu'on a appris comment ils ont procédé pour ériger ces obélisques ?
Alors oui, on l'a appris. Et le meilleur moyen de le comprendre, c'est d'essayer.
Oui.
C'est pour ça qu'une équipe locale va tenter une expérience vraiment unique. Ils vont tailler et dresser un obélisque avec les méthodes de l'Antiquité. Et donc, sans vous spoiler, ça implique pas mal de briques, des cordes et surtout beaucoup, beaucoup de sable.
Ouais, on aura la réponse ce soir sur cette expérience. Le pouvoir de Karnak était donc à peu près sans limite.
Alors oui, le temple qui est devenu donc le siège du pouvoir politique et religieux était aussi le cœur économique du pays parce que ils collectaient notamment les taxes sur les récoltes, ce qui leur donnait une fortune considérable. Et le grand prêtre de Karnak a vu son influence grandir encore jusqu'à finalement égaler celle du pharaon. Et puis, ce qui devait arriver arriva et l'un d'eux finit par se proclamer lui-même roi, ce qui sonna le glas de l'unification de l'Empire.
Et toute cette histoire, on va la retrouver donc ce soir à 20h50 sur France 5. Ça s'appelle Karnak, joyau des pharaons, documentaire de la case Science Grand Format. Merci David Amiel.
Merci.
À la semaine prochaine.